Jane McAvoc, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes historienne de l'art, spécialiste de la peinture française du XVIIe siècle, on verra plutôt du côté de la Provence, et pourtant, vous êtes irlandaise.
Oui.
Donc j'ai toujours été fasciné par les personnes venant d'autres pays et qui s'intéressent à l'art français et qui en font leur spécialité et qui deviennent des spécialistes reconnus par tout le monde. Donc peut-être pouvez-vous nous expliquer votre parcours avant d'arriver en France et avant de devenir... Et pourquoi, d'abord, pourquoi l'histoire de l'art ? Pourquoi la France et pourquoi l'histoire de l'art français ?
Bon, je vais essayer de ne pas vous prendre pendant toute une heure là-dessus, mais moi j'ai grandi dans une famille, mon père était critique d'art à Dublin, mais une famille qui était surtout très francophile. Et ils nous ont envoyé avec mon frère faire l'école maternelle française à Dublin. Donc en fait, moi j'avais déjà un petit niveau de français qui était pas mal dès le tout début. Et puis petite, mon père me traînait dans les expositions, etc. Donc j'avais l'habitude de voir surtout l'art contemporain irlandais. Et avec le temps, quand j'étais à l'école, par exemple, j'avais pensé faire des études d'histoire de l'art tout de suite après l'école, mais je me suis dit que si on fait des études d'histoire de l'art et puis à la fin des 3 années de la licence, ça ne plaît pas, c'est un peu dangereux. Donc, au lieu de faire ça, j'ai fait une licence de sciences économiques. À la fin de cette licence, je n'étais pas très bonne élève. Et donc, il me restait un examen à repasser après les derniers examens. Donc, mon père m'a dit, mais pourquoi ne pas faire un peu de bénévolat à la National Gallery ? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'étais au service culturel qui s'occupait aussi avec des contacts avec la presse. Et à la fin de 2-3 mois, en fait, ma chef m'a dit, mais tu sais, Jane, mon assistante va s'en aller. Est-ce que ça te dit de la remplacer ? Donc, je l'ai remplacée alors que j'avais aussi en même temps fait une demande en fait, pour venir en France passer une année à l'école du Louvre. C'était un peu le truc que mes parents nous avaient dit, qu'ils allaient financer une année d'études en France pour mon frère et moi. Et moi, j'avais choisi l'école du Louvre. Donc, j'ai mis de côté l'école du Louvre pendant une année et j'ai travaillé à la National Gallery d'Irlande au service culturel. À l'époque, il n'y avait que 2 conservateurs. Plus le directeur et le sous-directeur, plus la chef de l'éducation, et puis les restaurateurs, qui étaient 4 en tout. Et en fait, ce que je ne savais pas à l'époque, c'était le moment auquel le tableau du Caravage était en train d'être découvert et étudié. Et moi, je travaillais à...
Rappelez-nous ce tableau.
Donc, c'est l'Arrestation du Christ, qui est donc un des chefs-d'œuvre du Caravage. Et au moment où moi j'ai commencé, je pense que c'était pile au moment où le tableau a été vu par Sergio Benedetti d'abord et puis par d'autres membres du musée. Donc, mais j'étais au courant de rien, alors que je travaillais à 20 mètres de l'atelier de restauration. Puis par la suite, donc j'ai continué à travailler là et après une année à peu près, la décision était, bon, j'allais venir en France passer une année à l'école du Louvre. Donc c'est ce que j'ai fait et je m'étais toujours intéressée à l'art français. J'avais déjà été à Paris, j'avais visité le Louvre un peu comme tout le monde et j'avais vu quelques grandes expositions des impressionnistes. Mais je m'étais intéressée, en faisant un petit cours de soir d'histoire de l'art à ce moment-là, à l'art du XVIIIe siècle. Donc j'arrive à l'école du Louvre et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à m'intéresser au XVIIe siècle. Donc cette année-là, j'ai fait l'histoire générale de l'art de 3e année à l'école du Louvre. Donc c'est un peu le cours généraliste de 1700 jusqu'à la période contemporaine. 1700, pardon. Et puis j'ai fait 2 spécialités, peinture française et les décors des grandes demeures. Et cette année-là, c'était le décor des Tuileries au XVIIe siècle. Donc je me suis trouvée vraiment plongée dans le XVIIe. Puis à la fin de cette année-là, j'ai eu un remboursement d'impôts irlandais. Et je me suis dit que ça me laissait la liberté parce que je pouvais dire à mes parents, bah, moi je me finance, je fais ce que je veux. Et j'étais acceptée pour faire un stage au département des peintures du Louvre à la documentation. Ce qui est une excellente formation en fait pour les gens qui commencent à étudier parce que pour quelqu'un qui venait de faire donc, l'équivalent d'une licence, on voit comment les chercheurs travaillent, on voit comment on cherche les informations qu'on cherche, etc. Et donc à la fin de cet été-là, en fait, j'ai réfléchi pendant l'été, je me suis dit, bon, je vais trouver un moyen de rester en France et de faire une maîtrise d'histoire de l'art. Sauf qu'il fallait bien sûr faire une licence par équivalence et puis après faire une maîtrise. Donc, pendant l'été, cet été-là aussi, je me suis axée plus sur le XVIIe siècle. Et donc, Stéphane Loire, qui dirigeait mon stage, m'avait dit, il faut étudier avec Antoine Schnapper. Donc, je suis allée à Paris 4, j'ai fait ma licence, et à la fin de l'année, je suis allée le voir pour lui dire, voilà, moi, je voulais travailler sur un artiste. Je m'intéressais au dessin et j'avais une intuition aussi que la National Gallery d'Irlande allait recruter un conservateur des dessins dans pas très longtemps. Donc je me suis dit, bon, autant commencer par les dessins. Donc M. Schnapper était un peu étonné. Il m'a donné le nom de 3 artistes. Il m'a dit, passez l'été à regarder et revenez à la fin de l'été avec votre choix des 3 artistes.
De qui les 3 artistes ?
Donc c'était Louis de Boulogne l'aîné, donc pas très pratique, on ne connaît pas beaucoup de dessins. Louis Chéron, malheureusement pour M. Schnapper, parce que je pense qu'il aurait aimé que je le prenne. Étant anglophone, j'étais l'élève idéal, mais je n'aimais pas ses dessins. Et le troisième était Jean Daret. Voilà.
Donc Jean Daret, c'est celui que vous avez choisi.
Donc j'ai choisi Jean Daret. J'ai pris le sujet et 3 semaines plus tard, je suis allée voir M. Schnapper et j'ai dit oui, c'est un peu compliqué. Il a dit voilà, c'est un sujet compliqué, mais allez-y, faites ce que vous pouvez. Voilà.
Donc vous avez depuis... Alors, une autre chose qui est... pas atypique, parce qu'il y a beaucoup d'historiens de l'art dans votre cas, c'est que vous n'avez pas, actuellement, je crois, sauf erreur, de poste ni à l'université, ni dans un musée. Donc vous êtes historien de l'art indépendante. Donc moi, je suis assez sensible à cela. Il y a beaucoup de très bons historiens de l'art, vous en êtes un exemple, qui n'ont pas de poste, parce que les postes sont compliqués à avoir dans l'université, parce qu'il y a le concours que certains n'ont pas ou ne passent pas ou n'ont pas eu, alors qu'ils sont très bons. Et donc, c'est pas forcément facile, parfois c'est de la précarité, parce que dans ces cas-là, il y a beaucoup de... Ça, je veux bien que vous nous en parliez, parce que c'est quelque chose que vous devez vivre, et que beaucoup d'auditeurs doivent vivre, et je suis toujours... À la Tribune de l'art, on est très sensibilisé à ça. Moi, j'engage des journalistes qui ne sont pas journalistes de formation, mais qui au départ sont plutôt historiens d'art, et je les engage en un contrat de durée indéterminée. Beaucoup de musées, même d'institutions publiques, ne font pas ça, et il y a beaucoup de précarité, même pour ceux qui travaillent pour les institutions publiques. Donc vous pouvez nous parler un peu de cet aspect-là, quel type de travaux vous faites? On reviendra bien sûr à l'histoire de l'art pur, mais comment est-ce qu'on vit en historien de l'art indépendant en France?
Alors, oui, en plus, moi, j'ai été conservateur à la National Gallery d'Irlande après le master.
Ah bah alors, justement, alors, peut-être revenez à ça. On n'avait pas fini votre...
Voilà, donc après le parcours, après la maîtrise, en fait, mon intuition était bonne et la National Gallery d'Irlande a mis une annonce dans le journal, comme on fait, pour un conservateur de dessin. Et heureusement, une amie de ma mère l'a vu en se disant, tiens, ça serait pour Jane. Donc, j'ai candidaté et j'ai eu le poste. Peut-être parce que pour eux aussi, j'étais un peu une extraterrestre avec ma formation française. Sauf qu'à ce moment-là, Sergio Benedetti, grâce à la découverte du Caravage, était devenu chef des conservateurs. Il était à la base au département restauration. Et donc, lui, il était très motivé pour me prendre. Donc, je me trouve à Dublin. Tout se passe bien au début, mais pour beaucoup de raisons, ça ne s'est pas très bien passé. À la fin, et j'ai pris une décision avec beaucoup de réflexion, on peut y revenir après, si on a le temps, et j'ai décidé en fait de partir de Dublin, et donc la chose logique, c'était de reprendre la thèse. Et officiellement, si les gens me posaient la question, alors pourquoi t'as quitté Dublin, je disais toujours, c'est pour faire ma thèse, sur Daret, donc pas possible de le faire en Irlande. Et je me suis dit que peut-être un jour je reprendrai la carrière de conservateur dans un musée, mais sinon qu'il fallait trouver autre chose. Donc pendant la thèse, il fallait bien sûr que je vive, et donc j'ai financé la thèse en travaillant comme secrétaire du soir dans un cabinet d'avocats. En fait, je suis bilingue, et le hasard fait aussi que je tape très vite. J'étais allée voir un recruteur temporaire à Paris. Ils m'ont dit tout de suite, vous êtes bilingue, vous tapez très vite, ce serait un cabinet d'avocat. Et en fait, j'étais prise en CDI très vite par un cabinet international et je travaillais de 17h30 à 22h30, ce qui me laissait le temps dans la journée de travailler en bibliothèque. Donc j'ai fait ça pendant longtemps, mais petit à petit, on m'a dit... On m'a demandé de dépanner les gens, en fait, sur des traductions. Et en fait, avec mes études de sciences économiques, je suis assez à l'aise, en fait, avec la terminologie juridique, la rédaction aussi de contrats, etc. Mais je me suis dit, après un moment, que c'était un peu bête d'être bonne. Si j'étais bonne traductrice de choses juridiques, je devrais être excellente traductrice d'histoire de l'art. Et donc, il y a eu un moment, j'avais soutenu ma thèse, le temps continuait, et je me suis dit, non, il faut quelque chose. Et puis, le cabinet d'avocats aussi se réorganisait. Donc, nous nous sommes séparés. Et j'ai commencé à traduire, faire des traductions d'histoire de l'art. Donc, en fait, c'est grâce à la traduction que je vis. C'est terrible à dire, mais moi, je suis mieux payée pour traduire une notice que quelqu'un qui rédige une notice. Voilà. Et c'est un travail aussi qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce travail intellectuel, en fait.
Donc, vous faites toujours, c'est ça qui vous permet de vivre actuellement.
Oui, c'est ce qui me permet de vivre.
Alors, j'ai une question sur les traductions, parce que c'est une vraie question que j'ai. Alors, actuellement, il y a de plus en plus de logiciels, parfois très bons. Parce que je sais que c'est très cher de traduire, et malheureusement, par exemple, une société comme la Tribune de l'Art, là, n'a pas vraiment les moyens de payer un traducteur, parce que je sais qu'effectivement, souvent, c'est plus cher de traduire que d'écrire un article de l'histoire de l'art, ce qui, finalement, est... Bah, c'est très bien que les traducteurs gagnent bien leur vie, mais c'est plus ennuyeux pour les historiens de l'art. Est-ce que vous êtes inquiète par ces logiciels qui... Alors, Google, au départ, c'était vraiment pas bon, maintenant, ça commence à devenir meilleur, il y a encore DeepL qui est bien meilleur encore que Google. Est-ce que c'est pas un risque d'avoir une concurrence finalement par ce genre de traducteur ?
Oui, c'est un risque et je pense que d'ici quelques années, ça risque d'être un vrai risque. La seule chose derrière, c'est que parce que de temps en temps aussi, je fais des tests ou si je suis très pressée, j'utilise ces logiciels. Mais après, je relis derrière parce qu'il y a toujours quelque chose que le logiciel n'a pas compris. Et le problème aujourd'hui, c'est que si quelqu'un qui ne connaît pas le texte, qui n'est pas historien de l'art, relit quelque chose qui a été fait par une machine, la personne ne trouve pas forcément les erreurs. Souvent, c'est tout simplement une question d'incompréhension.
Je suis d'accord, c'est tout à fait vrai. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, pour ceux qui veulent une traduction absolument parfaite et qui ne sont... En revanche, quelqu'un qui connaît l'anglais, qui connaît l'histoire de l'art, mais qui n'est pas capable d'être traducteur, mais qui fait une traduction, lui, il peut voir plus facilement. C'est-à-dire que vous risquez de perdre quelques clients, mais il y a des clients qui, eux, ne connaissent pas l'anglais, ils ont toujours besoin d'une traduction de qualité. Donc là, vous êtes à peu près tranquille.
Je suis à peu près tranquille et je dois dire aussi que de temps en temps, il m'arrive, quand on me donne un texte, que je trouve des fautes dans le texte. Des petites choses comme la date de naissance d'un artiste, on a fait une découverte, je connais la bonne date, donc je fais un petit mot, où il y a des questions, des choses en fait qui ne sont pas bien dites dans
donc,
une phrase.
Donc en fait,
phrase.
Vous faites à la fois relecteur et traducteur.
En fait, traduisant, on a un contact, on a un lien très intime avec le texte qu'on traduit.
Donc voilà. Bon, j'espère en tout cas, peut-être que certains qui écoutent cette émission ne savaient pas que vous pouviez traduire des textes, une fois que c'était votre métier. J'allais dire qui vous fait vivre. Ben donc voilà, si vous avez des textes des histoires de l'art à traduire, anglais-français, français-anglais, les deux.
Je préfère vers l'anglais, c'est ce que font les traducteurs, mais comme j'ai fait toutes mes études en histoire de l'art en France.
Vraiment, enfin, voilà. Vous parlez comme. Avec un tout petit accent juste, mais vraiment France. à peine. Donc ça peut peut-être permettre de vous trouver de nouveaux clients, j'en serais absolument ravi. Donc c'est ça qui vous fait vivre. Alors vous faites de l'histoire de l'art quand même à côté.
Oui, parce que c'est toujours ce qui me fait. Donc en fait la traduction, même si j'aime bien le faire, ça me fait vivre de manière matérielle, mais quand on est historien de l'art, on a toujours cet amour aussi pour la recherche, et d'ailleurs c'est quelque chose qui me frustrait en tant que conservatrice, parce que je n'avais jamais le temps vraiment d'approfondir un sujet. J'avais 4 expositions ou 3 expositions et demie à faire par an, et donc c'était compliqué de rentrer en fait dans les détails d'un sujet. C'est le luxe d'une thèse. Et c'est le luxe aussi de travailler de manière indépendante. Moi, je fais des propositions pour des colloques, etc. J'en ai fait pas mal ces dernières années. Et c'est ma vraie passion. Voilà. Donc, les deux vont ensemble, en fait, je trouve. Je me vends comme traductrice en tant qu'historienne de l'art. Et parfois, je trouve de la clientèle pour mes traductions dans le milieu de l'histoire de l'art, en fait. C'est grâce à ça que j'ai trouvé mes premiers clients.
Alors, on parlera tout à l'heure de Jean Daret, de la peinture en Provence, des projets que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous parler ou nous dire quelque chose sur ce que vous avez fait, sur les principaux projets sur lesquels vous êtes intervenu, sur lesquels vous avez travaillé, dont vous êtes peut-être les plus fiers ou les plus heureuses d'avoir participé, voilà.
En fait, il y a... moi, j'ai un peu travaillé aussi sur les questions d'iconographie, par exemple, parce que c'est un peu une blague avec, avec des amis dans le sud de la France. Dans presque chaque église de la Provence, on trouve une représentation de la mort de Saint-Joseph. Donc, bien sûr, moi qui passe beaucoup de temps, en fait, dans le sud, j'étais très étonnée quand mon directeur de thèse m'avait dit « Mais il faut expliquer ce sujet, il est très rare. Bah, » il n'est pas rare dans le sud de la France. Donc, en fait... j'ai travaillé un petit peu sur ce sujet-là, les représentations de la mort de Saint-Joseph, mais les projets principaux sont autour de Daret et donc la peinture provençale. Donc actuellement, le musée Granet prépare une exposition Daret pour 2024 et je suis la commissaire scientifique avec une petite équipe au sein du musée Granet et puis avec la DRAC aussi.
Alors je suis heureux de pouvoir parler du musée Granet en bien parce que c'est vrai que sur la tribune de l'art, j'ai quelques soucis avec la direction du musée Granet qui n'expose pas malheureusement, et je crois que c'est toujours pas le cas, une grande partie de sa collection permanente et ça restera et ça reste un vrai problème. Néanmoins, bon point pour eux, ils font une exposition Granet. Alors, comment ça se passe? Pourquoi l'exposition Granet? Alors, on comprend pourquoi l'exposition Granet. Pardon, une exposition d'arrêt. On comprend pourquoi à Aix-en-Provence. Mais le projet vient d'où? Est-ce que ça sera une monographie complète? Le catalogue sera-t-il un catalogue raisonné? Alors, peut-être que vous pourrez nous parler également, peut-être, d'autres projets qui seraient de publier votre thèse, que vous avez soutenue, je crois, en 2008, un jour, parce que c'est vrai que. Tout le monde sait que vous êtes la spécialiste de Jean Daret. Moi-même, à la Tribune de l'Art, quand on a quelque chose sur Jean Daret, on vous appelle de temps en temps pour vous dire est-ce que. Voilà. Ou sur la peinture provençale, vous avez eu la gentillesse de nous donner, par exemple, des photos pour mettre dans la base de Stella. On verra photos de Jeanne McAvoc qui sont dans la base de Stella pour des peintures provençales que vous avez pu prendre en photo. Mais sur Daret, qu'est-ce qui va se passer sur Daret dans les années à venir? Donc, cette exposition, je veux bien que vous nous en disiez plus. Et éventuellement, le catalogue, j'espère, à bientôt venir de Jean Daret.
Alors, donc l'exposition, je ne sais pas exactement quelle est la genèse d'origine. Moi, je sais seulement qu'un dimanche matin, j'ouvre mes mails, il y avait un message de la part de Delphine Bastet, donc la spécialiste aimée de Notre-Dame, qui venait d'arriver au musée Granet au département des expositions. Et elle m'a dit, voilà, que le musée Granet avait cette idée, est-ce que ça pouvait m'intéresser? Donc, bien sûr, moi, j'ai sauté à l'occasion et on s'est rencontrés assez rapidement. Et petit à petit, en fait, le projet a pris un peu plus d'importance en fait au sein du musée. Delphine est partie en fait, elle est maintenant au service du patrimoine de la ville d'Aix-en-Provence, ce qui est très bien pour le projet d'arrêt, j'expliquerai ça. Et puis Pamela Grimaud est arrivée à la conservation du musée.
Et rappelons que l'ouvrage de Delphine Bastet chez Arthena est très très bien, que nous en avons parlé et que nous conseillons tous nos éditeurs de l'acheter.
Et c'est une historienne de l'art très sérieuse et on discute beaucoup d'arrêt en ce moment et c'est vraiment passionnant, en fait, parce qu'elle voit les choses d'un autre point de vue que moi. Et donc, en fait, je prépare le catalogue raisonné, qui, j'espère, sera publié par Arthena. Et puis, à côté, le projet de l'exposition est une exposition un petit peu rare. C'est une exposition de deux types. Donc, exposition dans les salles du musée, où il y aura peut-être une cinquantaine d'œuvres de Daret, quelques œuvres d'autres artistes,
des
dessins et des estampes. Et puis à côté de ça, on aura un parcours hors les murs qui prendra en compte des œuvres des artistes contemporains, non seulement dans la ville d'Aix-en-Provence, parce que ça nous paraissait à nous tous un peu bête de décrocher un tableau et de le faire déplacer quelques centaines de mètres. Sauf que depuis, en fait, on a appris il n'y a pas très longtemps que malheureusement l'église de la Madeleine ne sera pas rouverte en 2024.
On en avait parlé sur la tribune de l'art, fermée depuis très longtemps, malheureusement.
Elle est fermée depuis très longtemps. En fait, il y a beaucoup de problèmes dans cette église. Il y a des problèmes d'humidité. On ne sait pas d'où viennent ces problèmes. Il y a eu plusieurs études. En fait, la façade a été restaurée. Et moi-même, en fait, en tant qu'historienne de l'art indépendante, j'ai travaillé un peu comme sous contract sur une étude, en fait, des peintures murales, parce qu'on a trouvé des peintures murales quand on a décroché des tableaux, des peintures murales qui datent sans doute de la période révolutionnaire ou du tout début du 19e siècle. Donc j'ai travaillé sur ça, en fait, à cette époque-là. Lorsque les tableaux ont été décrochés de l'église, donc après 2006, après la fermeture de l'église, on s'est rendu compte que les tableaux n'avaient pas été bougés, déplacés depuis la réouverture de l'église ou le réaccrochage de l'église au début du 19e siècle. Quand on a décroché des tableaux, on a trouvé des traces de peinture dans, dans les transepts et dans quelques chapelles latérales. On a aussi déplacé une mezzanine qui avait été construite dans une des chapelles qui est tout près de l'entrée. Donc c'est la première chapelle en rentrant par la grande porte. C'est la chapelle qu'on appelle la chapelle Materon, du nom de la famille qui en était propriétaire pendant un moment. Et c'est une chapelle, en fait, qui est plus ancienne que l'église actuelle. L'église actuelle date du début du XVIIIe siècle. Et cette chapelle date de l'église précédente, qui était une église de style gothique. On a trouvé... en fait, on connaissait des peintures murales, mais elles étaient invisibles à cette époque-là. Et on pense avoir trouvé le nom de l'artiste qui les a peints. C'est un artiste qui n'est pas très connu, qui n'a pas fait de grands chefs-d'œuvre. Mais c'est un artiste qui est membre d'une dynastie de peintres et sculpteurs aixois qui s'appelle Valissé.
Et son prénom à lui
Et donc lui, c'était François Valissé. C'était Pierre et François Valissé, père et fils qui ont travaillé ensemble pendant tout le XVIIe siècle à Aix-en-Provence. Donc l'idée, quand l'église sera rouverte, serait de faire une étude et faire une publication à ce moment-là.
Vous parliez de peinture du fin 18e, début 19e, l'époque révolutionnaire. Oui. Donc ça, vous avez trouvé deux types de peintures, des peintures 17e et des peintures...
Donc les peintures 17e existaient déjà, les peintures, on les connaissait, les autres, c'était une vraie découverte. Ce sont des morceaux et malheureusement, ce ne sera pas possible de trouver un nom d'artiste. Surtout que les archives sont assez complètes sur l'église jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations, il y a très peu de documents pour le 19e siècle. Je pense que c'est un problème auquel les chercheurs sont confrontés, pas seulement à Aix-en-Provence, mais il y a assez peu de documents sur les églises et les travaux dans les églises au 19e siècle. Donc, malheureusement, l'église ne sera pas rouverte, donc les trois darrets qui appartiennent à l'église vont être dans l'exposition, mais la grande scène qui est à Saint-Sauveur, par exemple, ne sera pas décrochée. Ni les deux tableaux, ni les deux darrets qui sont à l'église du Saint-Esprit. Donc on va mettre en valeur les œuvres aussi d'artistes contemporains de Darrets. Donc c'est là où je me plonge dans ce qui est la peinture provençale, parce que ce qui peut paraître étranger pour les gens qui ne sont pas provençaux, c'est qu'il y a plusieurs courants. Donc on a exclu par exemple les artistes du tout début du siècle, donc les contemporains de Finson. Donc
il y aurait aussi Louis Finson, il y a peu, je voilà, rappelle, qui a travaillé avec Caravage.
Il a travaillé avec Caravage et il a passé du temps en Provence.
Bon. Donc Louis Finson, dont on voit d'ailleurs à côté un très très beau tableau dans l'église Saint-Jean de Malte, juste
il
à côté
y a
du musée.
Très beau, oui, et puis il y a un deuxième à Saint-Sauveur, mais il y aura une exposition Finson en 2025 normalement.
Également à Aix-en-Provence ?
À Marseille et à Naples.
D'accord,
et aussi à Bruges.
Mais
voilà, donc c'est un autre projet.
Quelques scoops à la tribune de l'art, pour la tribune de l'art.
Voilà, et en fait, ça c'est un projet qui traitera aussi plutôt du début du XVIIe siècle, qui est un peu différent en fait. Donc nous, on va vraiment mettre l'accent sur les artistes du deuxième et troisième tiers, disons, ou deuxième et troisième quart du XVIIe siècle. Donc Darrets, bien sûr, Nicolas Mignard et Raynaud Levieux que tout le monde connaît, mais on va avoir aussi un petit peu, on va mettre en valeur des œuvres d'artistes qui sont un petit peu plus jeunes, comme Gilles Garcin, peut-être éventuellement les frères Daniel, éventuellement Michel Serres, mais il est un peu un autre courant. Voilà, parce qu'il est plus de la fin du siècle et marseillais.
Voilà, est-ce que, parce qu'il y a une exposition qui a fait date, que je n'ai pas vue parce que je ne m'intéressais pas encore à l'histoire de l'art à cette époque, en 78, qui a eu lieu à Marseille, si je ne me trompe pas, sur la peinture provençale. J'ai le catalogue, qui est très rare.
Oui.
Très rare, et qui manifestement montre, alors en grande partie en noir et blanc, mais qui est passionnant. Est-ce que ça sera un peu une suite de cela, parce qu'il y a dû y avoir beaucoup de découvertes depuis sur tous ces artistes-là. Est-ce qu'il y aura aussi dans le catalogue, ou est-ce qu'il y aura un autre catalogue pour tout ça ou...
Alors, l'idée serait de faire un autre catalogue qui parlera des œuvres dans l'exposition. Donc, comme j'ai dit, il n'y aura pas que des œuvres de Darrets. Il y aura Nicolas Mignard, Raynaud Levieux, espérons aussi Crozier.
Jean-Pierre Crozier.
Oui, ouais. Voilà. Dont on connaît un tableau qui était commandé pour l'oratoire à Aix et on espère qu'il sera dans l'exposition. Donc, ces artistes-là, en fait, et d'ailleurs, Crozier, il y avait un seul tableau connu, en fait, en 78.
Il était dans le catalogue.
Voilà. En revanche, il y aura une œuvre de Pierre Bainville, qui était un artiste pas connu. Oui,
on connaît
peut-être une dizaine de tableaux de lui qui sont plutôt de bonne qualité. C'est un artiste de la fin du XVIIe siècle, marseillais. Et puis d'autres artistes donc, qui sont contemporains de cette époque-là. Donc oui, ça ne sera pas... Ça sera dans la suite, bien sûr, parce qu'on reprendra des recherches et des travaux qui ont été faits depuis. Donc oui, on pourrait dire que c'est dans la suite. Sauf que cette exposition-là traitait des œuvres un petit peu plus tardives aussi. On va bien sûr, s'il y a des œuvres des Daniel, par exemple, qui sont des artistes marseillais qui ont travaillé à Aix, mais on ne va pas aller chercher les œuvres des artistes de la toute fin du siècle.
Alors, c'était... une exposition. Alors, une exposition. Il y avait cette exposition-là, mais il y a eu un temps où il y avait pas mal de travaux, puisqu'il y a une monographie sur Raynaud le Vieux, il y a une monographie sur bon, les Puget, parce que je ne sais pas si les Puget c'est trop tard, peut-être, ou Pierre.
Oui, parce que c'est sur les fils Puget, oui. On s'y intéresse quand même.
Raynaud le Vieux, vous disiez également que Nicolas Mignard, si je ne me trompe.
Oui, Antoine Schnapper a fait une exposition en 79.
Exactement,
avec le catalogue raisonné.
Dont j'ai effectivement le catalogue dans ma bibliothèque, donc effectivement, je devrais m'en souvenir. Il y a eu pas mal de choses finalement sur tous les artistes, mais c'est vrai que c'était dans les années 75, 80, 85. Enfin, depuis, il n'y a pas eu grand-chose.
Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de choses en fait. Malheureusement, l'université d'Aix n'a pas eu de professeur d'histoire de l'art des périodes modernes pendant une bonne période. Et il y a très peu d'étudiants en fait qui poursuivent les études. Donc il y a eu plusieurs études au niveau de ce qu'on appelle maintenant le Master 1 et le Master 2. Mais il n'y a pas eu beaucoup de thèses parce qu'en fait, il manquait de professeurs. En revanche, il y a eu plusieurs recherches, des recherches en fait dans le domaine de la sculpture et un petit peu dans l'architecture.
La sculpture sera hors sujet par rapport à ça ou ça...
Oui, on pense peut-être, on aura peut-être une ou deux sculptures dans les salles de l'exposition, mais on ne va pas faire une étude approfondie.
Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça va permettre de remettre en lumière ou de mettre en lumière des tableaux dans les églises qui est, vous le savez, un de mes dadas avec la base Stella. Enfin, je pense que les églises de France sont une mine exceptionnelle où on retrouve toujours des choses fantastiques. Est-ce que, dans ces églises, est-ce que ça va permettre de restaurer des œuvres qui ne sont pas forcément en très bon état et qui vont pouvoir être restaurées à cette occasion? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a une ou deux découvertes récentes dont vous voudriez nous parler en avant-première?
Alors oui, et d'ailleurs on a dû repousser l'exposition, la date de l'exposition d'une année parce que le travail de restauration est un peu compliqué. Quand on a commencé à parler de l'exposition d'Arret, j'ai tout de suite dit que moi ce que je souhaitais c'était de ne pas exposer les d'Arret qui étaient exposés en 78. Bon, il y en aura quelques-uns parce qu'on ne peut pas l'empêcher, mais que je voulais surtout montrer des œuvres qui n'avaient pas été montrées à cette époque-là. Certaines œuvres qui ont été restaurées, mais pas forcément très bien, d'autres qui n'ont jamais été restaurées. Et donc, on a fait, pendant 2021 et surtout 2022, nous avons fait un tour, en fait, pour aller voir les différentes villes et villages, propriétaires de tableaux de d'Arret qu'on voudrait avoir dans l'exposition, pour présenter le projet au maire. Donc, c'est l'équipe du musée Granet avec le directeur Bruno Elie, très souvent Pamela Grimaud, et des gens du département de l'exposition, Marielle Maliossi et Delphine Basté, l'une ou l'autre, et aussi avec Pierrick Rodriguez de la DRAC, et parfois quelqu'un de le CUCRP, qui est le Centre interrégional de restauration à Marseille, qui est très impliqué dans le projet.
Qui est un très bon centre. Je voulais faire un article sur ce centre, et je le ferai un jour, bien sûr, parce que c'est un des grands centres de restauration
Absolument.
En France.
Et donc, eux, ils sont très impliqués dans le projet. On a présenté, et petit à petit, grâce aussi au soutien que Pierrick Rodriguez donne au village pour les aider à préparer leur dossier de financement.
Pierrick Rodriguez, rappelons qu'il est conservateur
des monuments historiques
à la DRAC.
Oui, voilà.
PACA.
À la DRAC PACA, et il s'occupe des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse et de quelques éléments en plus. Et donc, il y a un très grand nombre de d'arrêts qui vont être restaurés. Certains tableaux, en fait, qu'on a vus avec des restaurateurs qui sont devenus très excités, parce que ce sont des tableaux qui n'ont pas été touchés depuis...
Quasiment inédits.
Et il y en a qui sont des inédits, oui, voilà. Il y a, par exemple, une Annonciation qui est à Saint-Martin-de-Palière, dans le Var. Je vous souhaite bon courage pour y aller parce que ce n'est pas... C'est loin de tout, mais c'est un très joli village. Et ce tableau, malheureusement, en fait, il ne faut pas y aller maintenant parce que le tableau va être décroché bientôt et il va partir à Marseille, comme plusieurs autres œuvres de d'Arret. Voilà. Donc, on a eu plusieurs découvertes assez régulièrement de tableaux de d'Arret. Donc, il y en aura 4 ou 5, sinon plus, en fait, je ne compte même plus, en fait, parce que pour moi, ils sont devenus, ils sont plus des inédits.
Oui.
Mais on aura plusieurs œuvres inédites, oui.
Alors,
oui,
parmi les tableaux d'Arret qui ont été découverts, alors peut-être qu'il était connu de vous, celui-ci, mais on l'a découvert récemment, il a pu être acheté, heureusement, par le musée de la chasse et de la nature. Il y a ce portrait, rappelez-moi, de qui. On avait parlé sur la tribu de l'art, mais ça, c'est un tableau plutôt... C'est ce que c'est rare dans sa production, parce qu'on connaît surtout le tableau d'Hôtel. Là, c'est un tableau différent, un portrait avec un chien d'Arret, si j'ose dire, mais je ne le ferai pas. parlez-nous de ce tableau.
Alors, c'est un tableau, je vais être méchante, sans l'être, parce que ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais souvent, on m'envoie un mail ou on m'appelle pour dire, voilà, j'ai trouvé un d'Arret, venez le voir. Et la seule fois de ma vie où c'était vraiment un d'Arret que je ne connaissais pas, c'est ce portrait. Que je ne connaissais pas. En fait, il était resté dans la famille du modèle jusqu'à sa vente. C'est un tableau qui est exceptionnel, donc il est vraiment fondamental pour beaucoup de raisons. Donc, la première raison, c'est que c'est un très beau portrait d'un homme qu'on a identifié. Et c'est très important aussi parce que c'est un tableau qui date de la période parisienne. En 1659, d'Arret est revenu à Paris et il est resté quelques années, jusqu'en 1663-64. Selon des sources du début du XVIIIe siècle, mais aixoises, il a travaillé à Vincennes. Donc, tout le monde sait qu'on ne sait rien sur le château de Vincennes. On ne sait pas ce qu'il a fait. Moi, je pense en fait qu'il a pu travailler comme assistant parce qu'il avait des problèmes financiers à Aix. Et donc, il a dû travailler dans une équipe. Peut-être une équipe de Philippe de Champaigne, parce que rappelons que d'Arret était bruxellois d'origine. Et ce tableau... Aussi.
Un côté un peu bruxellois, un peu nordique, je trouve.
Voilà, et en fait, ce tableau est un tableau à quatre mains avec Nicasius Bernhardt.
D'accord, je ne me rappelle plus. En plus, on l'a publié, si ça se trouve, je ne sais plus qui chez nous a écrit l'article. On écrit tellement d'articles, des fois, je ne me rappelle plus, donc on a lu le dire dans l'article.
Voilà, en fait, c'est un tableau à quatre mains et c'est dit, en fait, sur l'inscription. On dit que le tableau a été exécuté à Paris en 1661.
Il y a le personnage et le paysage.
Et les animaux sont de Nicasius.
C'est les animaux, c'est ça, oui.
Voilà.
C'est ça.
Donc, en fait, c'est une œuvre vraiment exceptionnelle. C'est une œuvre profane. On n'en a pas beaucoup de d'Arret. Les portraits, on a son autoportrait et deux autres, dont un a été volé dans les années 70. Et on a celui-là. Donc, c'est vraiment une œuvre exceptionnelle pour beaucoup de raisons. Il s'agit du portrait du baron Dupil, qui est quelqu'un qui n'avait aucun contact avec la Provence. C'est quelqu'un que d'Arret a pu peut-être rencontrer dans le milieu littéraire parisien, parce que d'Arret connaissait Antoine Godot, qui était un membre de l'Académie française. Godot lui a commandé un tableau. D'ailleurs, ça sera un des inédits de l'exposition. Et donc, c'est un lien qui est un peu mystérieux pour l'instant, mais qui est vraiment passionnant.
Jean d'Arret, par ailleurs, peintre de tableaux, est également un auteur de peinture murale. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur cet aspect de son art ?
Oui, justement, en fait, d'Arret est connu de tout le monde et il est mentionné partout grâce à son décor de l'escalier de l'hôtel de Château-Renard.
Qui a eu des problèmes structurels dont j'avais parlé dans la tribune de l'art. Ça en est où, cette affaire ?
Voilà, donc on est en train de faire des études, mais la ville fait tout pour ouvrir au moins la partie avec l'escalier pour l'exposition. C'est un escalier, en fait pendant très longtemps on avait dit que Louis XIV avait admiré cet escalier et c'est pas à la suite de son passage à Aix que d'Arret est allé à Paris en fait, ce n'est pas vrai. Louis XIV est cité comme avoir bien admiré l'escalier, mais d'Arret était déjà à Paris à ce moment-là. Donc c'est un projet de restauration assez lourde qu'on va espérer ouvrir pour l'exposition.
Est-ce que sur d'Arret, on n'a pas tout dit évidemment, il faudrait avoir l'exposition et lire votre catalogue raisonné, mais est-ce qu'il y a d'autres choses sur l'actualité de d'Arret qui vaudraient le coup d'être dites ?
Sur l'actualité de d'Arret, moi je suis toujours à la recherche de nouveaux tableaux.
Oui, voilà, je ne sais plus, est-ce que vous aviez passé une annonce ?
J'ai passé une annonce. Et
ça vous a donné quelques... Non, rien ?
Non.
Pourtant, souvent ça donne.
Ça donne.
Je relance ici un appel pour si vous connaissez des d'Arret inédits, dessins ou tableaux, n'hésitez pas à contacter.
Dessins, tableaux et estampes.
Estampes, pardon.
Oui.
Jane McAvoy. C'est vrai que ça dépend de l'artiste. Des fois, il y a des gens qui me disent, des chercheurs qui me disent, dès qu'on a publié l'article, enfin l'annonce, on a reçu beaucoup de choses, et puis des fois non, c'est vrai que s'il n'y a rien, on ne peut pas inventer, si les gens ne trouvent pas.
Le problème aussi avec d'Arret, c'est que ce n'est pas un nom qui vient en tête. Si on se trouve devant un tableau anonyme du XVIIe siècle, on ne pense pas à proposer le nom de d'Arret. C'est la même chose aussi avec Gilles Garcin, par exemple, dont le style est assez reconnaissable quand on le connaît. Mais il faut le connaître, et c'est vrai, il y a eu très, très peu de publications sur lui. Donc, c'est un des problèmes, en fait, auxquels je suis confrontée. Et j'accepte le fait qu'après l'exposition, les gens reconnaîtront mieux le style de l'artiste. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va faire des découvertes.
Bah, vous pourrez les publier dans la Tribune de l'Art.
Oui.
Vous êtes, par ailleurs, membre de Bella Maniera. Est-ce que vous pouvez dire un mot de cette association ?
En fait, Sarah Catala et Frédéric Lanoé ont eu une très bonne idée de créer une association justement pour les... avec cette idée, parce que Sarah et Frédéric, à l'époque, étaient indépendantes comme moi. Et elles sont venues me voir en me disant « on aimerait bien une troisième personne, on aimerait bien que tu en fasses partie ». C'est une association, en fait, pour les gens qui s'intéressent au dessin ancien, mais qui viennent de tous les domaines. Donc là encore, le fait que nous, à l'époque, on ait été indépendantes, ça joue beaucoup, en fait. L'idée aussi, c'était donc organiser des visites d'exposition, des visites aussi de cabinets de dessin, des visites chez des collectionneurs, mais aussi soutenir des recherches. Et le site internet est un élément très important, en fait. Et grâce aux travaux récents, en fait, des membres du bureau et des stagiaires et des différentes personnes, en fait, qui se sont impliquées ces derniers mois, le site internet a été refait. Il y a plusieurs petits articles sur des dessins. Il y a aussi une liste d'expositions. Il y a aussi des informations sur les collections d'art graphique dont les bases de données sont accessibles sur internet, ce qui est très utile pour l'étude du dessin. Mais vraiment, cette idée de réunir les gens de toutes les origines, disons, qui s'intéressent au dessin ancien. Et c'est quelque chose qui marche bien. C'est quelque chose qui marche très bien. Les visites sont toujours une grande réussite. Il y a toujours beaucoup de monde qui s'inscrivent. Et parfois, d'ailleurs, il y a des refus parce qu'il faut limiter le nombre de personnes. Et c'est quelque chose qui est vraiment un grand succès.
Je conseille d'ailleurs, une fois de plus, oui, également à tous les auditeurs de la Tribune de l'Art qui s'intéressent au dessin, de s'inscrire à cette association, oui, qui fait partie des associations qui sont très dynamiques. Et d'ailleurs, je suis frappé à chaque fois que j'y vais de voir qu'il y a beaucoup de gens jeunes, beaucoup, oui, d'historiens de l'art jeunes. Parfois, c'est très dommage d'ailleurs, il y a des associations savantes qui n'arrivent pas à se renouveler. Je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, c'est vrai que peut-être parce qu'elle a été faite par des gens jeunes au départ, cette association permet de réunir... pas seulement des jeunes, il y a des gens comme moi aussi, donc plus vieux, qui viennent.
On a même des gens encore plus vieux. Et c'est une des qualités, en fait, de Bella Maniera, c'est le fait qu'il y a des très jeunes et il y a aussi, je ne vais pas être méchante en disant des très vieux, mais des moins jeunes.
De toute façon, vieux n'est pas un défaut, c'est juste un état qu'on espère que tout le monde atteindra.
Mais la présence sur les réseaux sociaux, je pense que ça joue beaucoup, en fait, pour les jeunes. Bella Maniera a une présence importante sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et même sur TikTok, si je me souviens bien. Donc en fait, je pense que ça joue beaucoup.
Bien meilleur que la Tribune de l'Art qui n'est que sur Facebook et sur Twitter.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des sujets dont on n'a pas parlé ? Il y en a certainement beaucoup dans vos projets, dans ce que vous avez fait dans le passé, etc., d'histoire de l'art dont vous aimeriez parler également, profiter de cette antenne pour parler.
Je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir parler un petit peu de l'art provençal et d'encourager aux gens aussi de regarder... souvent, beaucoup de gens en fait sont dans le sud de la France pour les vacances. Souvent, on se trouve devant une église fermée. Parfois, c'est possible en frappant à la porte de la mairie de pouvoir avoir la clé de l'église. Sinon, en général, on s'adresse aux gens du village. On connaît toujours la personne qui a la clé de l'église pour les fleurs, pour faire le ménage, je ne sais pas quoi. D'aller dans les églises et de regarder la qualité. Il n'y a pas toujours des chefs-d'œuvre, mais l'art n'est pas fait que des chefs-d'œuvre.
Ça, je suis heureux que vous le disiez, c'est très important.
L'art est fait aussi des œuvres qui sont intéressantes, qui sont différentes. On a tendance, en France, peut-être par l'histoire de ce pays qui est très centralisé, d'étudier en fait que ce qui se faisait autour de la cour. Pour l'art ancien, pour l'ancien régime, ce qui se faisait à Versailles, éventuellement ce qui se faisait à Paris. Mais il y a des centres dans toutes les régions, il y a eu des artistes dans toutes les régions qui ont travaillé, et surtout dans le sud de la France, et surtout dans ce qui est aujourd'hui le PACA, on trouve...
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Voilà, il y a peu d'églises qui n'ont pas de tableaux anciens. Voilà.
Et alors, je rappelle pour les auditeurs également bah, que souvent, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces églises, parce que dans les guides, évidemment, il n'y a rien. Donc, la tribune de l'art fait cette base Stella, où il y a beaucoup de choses dans les églises. Un des objectifs, c'est qu'on puisse se promener avec un smartphone avec la tribune de l'art, qui permet d'aller voir, de savoir que dans telle ou telle église, il y a telle ou telle œuvre. D'ailleurs, si des auditeurs de la tribune de l'art veulent m'envoyer des photos qu'ils ont prises de tableaux ou de sculptures ou dans les églises, qu'ils n'hésitent pas pour qu'on puisse les mettre dans cette base. Voilà, bah,
je vais dire une dernière chose aussi. Dans le projet Hors les murs pour l'exposition d'Arret, il y a un projet aussi de créer une application pour cette partie Hors les murs. Donc, j'avais dit en fait, pas à Aix-en-Provence, mais en fait, ce circuit Hors les murs sera dans toute la région. Et donc le projet est de faire une application pour permettre aux gens de voir ce qu'il y a, et cette application aura une durée de vie qui est plus longue que l'exposition. C'est vraiment quelque chose qui sera
permanent. On espère même qu'elle restera en ligne du temps éternel, parce
absolument.
Que c'est ce type de projet qui, moi, me permet ensuite d'enrichir la base de Stella.
Oui.
Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait un jour des guides, qui soient vraiment des guides, qui donnent les œuvres importantes à voir dans les églises. Parce que c'est vraiment dommage, finalement elles restent fermées, donc on ne sait même pas qu'elles sont là. On n'a même pas l'idée d'y aller quand on passe à côté. Et c'est bien dommage.
Si on passe devant une église...
Toujours essayer de rentrer.
Toujours essayer de rentrer. Et en général, c'est possible. Et parfois, c'est... Peut-être la grande porte n'est pas ouverte, mais une petite porte de côté est ouverte.
Voilà. Bah, écoutez, voilà. Ça sera la conclusion de cette émission. Je vous remercie d'avoir participé à celle-ci. Et à bientôt pour une nouvelle interview de la Tribune de l'Art. Au revoir.
Au revoir.